Il est 8h passé de 5 minutes. Vous êtes à l'écoute des promesses de l'aube. Et en ce mercredi 18 novembre, nous avons le plaisir d'accueillir Bruno Borin. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Voilà. ça va mieux comme ça. Bruno Borin, vous êtes le secrétaire général, le directeur du Grésea. Et donc, qu'est-ce donc que le Grésea? Un petit rappel avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet qui est la présentation, une discussion autour du dernier numéro du Grésea Echo, la démocratie sous le masque chronique d'un confinement. Donc le Grésea, qu'est-ce que c'est?
Alors le Grésea, c'est un objet un peu non identifié dans le paysage des mouvements sociaux et des associations, syndicats. C'est un centre de recherche basé à Bruxelles qui travaille plus spécifiquement sur les questions liées à l'entreprise, à l'économie internationale et aux mouvements sociaux. C'est un peu le triangle thématique dans lequel on se retrouve. Et on a un travail d'une part de recherche et d'information, d'éducation populaire aussi. Et on est au service du monde progressiste au sens large, je vais dire. Voilà.
Et justement, parmi vos activités, il y a la publication de ce trimestriel, le Grésea Echo, donc, qui, soit dit en passant, c'est le deuxième volume de la nouvelle mouture, et c'est un très joli objet. Et donc, la production en éducation permanente, en éducation populaire de revue devrait être largement valorisée, parce qu'il y a de belles choses qui se font. C'était le petit coup de pub esthétique. Et donc, ce travail de veille et de vigilance que vous faites lors du confinement, il ne s'est pas arrêté, et c'est entre autres pour ça que vous avez décidé de consacrer ce numéro qui est sorti cet été, fin de l'été si je ne me trompe pas,
oui.
Sur le confinement. Et donc, comme vous l'expliquez dans l'éditorial et l'introduction à ce dossier, c'était un peu hasardeux de pouvoir se lancer déjà dans une analyse de ce qu'avait été ce confinement et des leçons qu'on pouvait en tirer. Mais, et donc c'est avec des pincettes que vous avez sorti ce numéro, et pourtant là maintenant aujourd'hui en deuxième confinement, on se rend compte que plein d'analyses que vous avez faites sont totalement judicieuses. Et donc effectivement, on se rappelle que dès le début de ce confinement en mars, les mouvements sociaux et progressistes, comme vous le disiez, se sont dit c'est l'occasion de changer et d'aller vers un monde nouveau, on va dire. Et l'après-Covid a été largement fantasmé, justement. On se disait, mais regardez, ce qu'on vit maintenant, c'est le résultat de tout ce système dans lequel on est. Il faut absolument changer notre disque dur et tirer profit de cette crise dans laquelle on s'est enfoncé pour arrêter la machine et arrêter le train fou, on va dire. Et donc, vous avez voulu justement pouvoir un peu tirer certains enseignements et préparer justement au niveau de la réflexion ce monde d'après. Et donc, est-ce que dans votre introduction, vous citez cette phrase de Walter Benjamin selon laquelle c'est de la catastrophe que naissent d'autres catastrophes, et aussi qu'il faut fonder le concept de progrès sur l'idée de catastrophe, que les choses continuent comme avant. Voilà la catastrophe. Donc, qu'est-ce que, en citant Walter Benjamin, qu'est-ce que vous vouliez mettre en avant?
Alors, l'objectif de ce Grésea Echo, on s'est retrouvé tous les chercheurs du Grésea, chacun devant son bureau à domicile, en égrénant le goutte à goutte des informations plus catastrophiques les unes que les autres, et on a eu chacun eu envie d'avoir une analyse de ce qui se passait. On n'a pas pu se les confronter en direct. Et donc, il y a beaucoup de chercheurs qui ont écrit. Et on s'est dit, on doit garder les traces de ce qui est un état d'exception, en fait. On a suspendu les libertés individuelles, les libertés collectives, et on est toujours là-dedans, en fait. Depuis le mois de mars, on a pu parler d'un certain déconfinement, mais enfin, on n'a pas vraiment déconfiné ni le droit de manifester, ni le droit de grève. Donc, on est dans un état d'exception. Et ça nous a paru nécessaire, de même si, comme tu l'as dit au départ de ton intervention, c'était très risqué. On a eu un peu peur voilà, c'est difficile pour des chercheurs qui ont l'habitude d'essayer de vérifier leur analyse, de les confronter au terrain. Là, on en fait part parfois de certaines hypothèses sans pouvoir les vérifier. Mais ça nous a paru nécessaire parce que nous pensons que ce qui est présenté est toujours actuellement comme une parenthèse au niveau de la démocratie, au niveau du monde socio-économique. C'est lourd de potentialité pour le futur et c'est des choses qui étaient déjà en germe, mais que le Covid et la crise actuelle révèlent. Donc, troisième chose, tu l'as fait remarquer aussi, notre troisième objectif ici, c'était de faire preuve de lucidité par rapport au monde d'après. Nous avons tous, en tant que chercheurs grésiens, nous sommes aussi tous des militants, et on a tous participé à des choses, et on a tous espéré. On a espéré une réaction collective forte par rapport à ce qui se passait. Mais, et c'est là que je viens à la phrase de Benjamin, c'est que de la catastrophe dans l'histoire du capitalisme naît plutôt la catastrophe. Et la catastrophe jette les bases de la prochaine catastrophe. On l'a vu avec les crises économiques et puis les plans d'austérité. C'est un peu une régulation systémique. Et donc, nous, ce que nous posons comme hypothèse dans Grésé Eco, c'est que c'est le mouvement social, les mouvements sociaux qui peuvent à un moment donné produire dans le rapport de force le monde d'après, et ce n'est pas des alternatives pensées en chambre qui vont par magie créer ce monde d'après. Il faudra des luttes sociales, et c'est donc pour ça qu'on a terminé ce Grésé Eco également sur un article où on s'interroge sur les luttes confinées, c'est-à-dire qui est sorti, qui a osé braver l'état d'exception pour faire entendre sa voix et pour faire entendre ce monde d'après qui est à mon sens, et je pense dans la tête de beaucoup de chercheurs du Grésea, est beaucoup plus dans la pratique de la lutte que dans l'écriture des cartes blanches, dont on a vu à foison ce que ça voulait dire pendant le confinement.
Et justement, c'est intéressant de pointer ça, parce que directement, ça faisait même pas deux jours qu'on était confinés, que déjà il y avait pléthore justement de cartes blanches, mais aussi d'analyses, et effectivement ce sentiment que cette crise avait le potentiel justement, comme vous l'évoquez dans l'intro aussi, de pouvoir montrer l'anormal du capitalisme néolibéral, et donc la nécessité de ne pas retomber là-dessus. Et donc, qu'est-ce qui a fait qu'entend aussi le Grésea et aussi il y a plusieurs plateformes qui se sont mises en place, notamment le Faire Front, dont vous avez fait largement partie, même être plus que ça. Est-ce que justement le soufflet est un peu retombé ?
Je pense que le monde associatif et le monde syndical, donc le mouvement ouvrier, les mouvements sociaux, ont du mal avec cette crise. Elles ont du mal pour je dirais pour une raison principale, c'est structurel à l'histoire des mouvements sociaux en Belgique, c'est qu'une bonne partie de ces mouvements sociaux sont très professionnalisés et doivent aujourd'hui faire face à une crise qui allie urgence et perspective de long terme. Donc urgence de la situation actuelle, où il faut urgence sanitaire, il faut défendre la vie, il faut défendre les corps, et une des perspectives qu'il faudrait poser de transformation sociale forte, puisqu'on sait que, j'y reviendrai après, dans le Grésé Eco, on plante un peu le décor et ce que révèle cette pandémie en termes socio-économiques. Et le problème des mouvements sociaux institutionnalisés en Belgique, c'est qu'ils sont autant une parcelle du pouvoir, et donc ils doivent faire face à l'urgence comme tout corps constitué presque, hein. Ils vont devoir faire face aux pertes d'emplois, Et donc, ils vont quelque part devoir stabiliser le monde d'avant, participer à stabiliser le monde d'avant. On leur demande ça et on leur demande en même temps, et là, c'est plutôt sur le... Les demandes viennent plutôt des mouvements sociaux moins institutionnalisés. On leur demande de penser le monde d'après. Et ça, c'est une contradiction très compliquée à régler. Et donc, voilà pourquoi, malgré l'envie, et je crois qu'elle est forte, dans les organisations syndicales, dans les ONG, dans le monde associatif, etc., dont nous sommes partis, hein, malgré cette envie de changer les choses, le travail quotidien, le travail de... on parle maintenant déjà de relance économique, c'est un mot très lourd dans le contexte dans lequel on vit, mais relance économique est même portée par les forces progressistes, c'est-à-dire relancer le système d'avant, hein, c'est bien ça que ça veut dire. Donc voilà, on est face à cette contradiction majeure qui a toujours existé en Belgique, enfin depuis en tout cas l'institutionnalisation de certains mouvements sociaux. Et c'est compliqué. Je pense que c'est compliqué. Et c'est ce qui donne parfois cette forme d'apathie. Maintenant, il faut aussi relever. On est un peu des biologistes, je pense. Hein, il faut relever ce qui vit. Et ce qui vit pour le moment, c'est les sans-papiers qui sont sans cesse en mouvement, en lutte depuis mars. Ils n'ont jamais arrêté. C'est, je pense, le mouvement de la santé en lutte qui a réussi quand même à relever cette contradiction et à passer outre pour organiser une très belle manifestation à Bruxelles. Voilà, il y a des choses, il y a des réseaux d'aide, de solidarité qui se tissent dans cette crise. Et donc, on a voulu aussi montrer ça, c'est-à-dire le verre à moitié plein. Il y a des choses qui se font, elles ne sont peut-être pas assez visibilisées. Et donc c'est important de le dire et de rendre hommage à ces gens qui se battent tous les jours pour un monde d'après, justement, mais qui l'écrivent peut-être pas, mais qui le militent en tout cas.
Et justement, en vous écoutant là, j'ai l'impression aussi que, et vous l'évoquez dans un article aussi du Grisel Echo, c'est le fait qu'on a assisté à une gestion de cette crise à la fois par un gouvernement d'urgence, enfin, qui était pourtant en affaires courantes, enfin temporaires, mais qui a décrété cet état, entre guillemets, cet état d'urgence, et donc qui a fonctionné avec des task force, avec des experts, et de leur côté, des associations comme le Grisea ou d'autres centres de recherche ont réfléchi justement à ce monde d'avant. Il y a un article aussi de Frédéric Thomas du CETRI à Louvain-la-Neuve, et donc c'est des organisations qui ont le temps, elles, de réfléchir, contrairement aux syndicats, notamment, qui effectivement ont été, je pense que 90% des forces vives du syndicat ont été affectées à la gestion des travailleurs qui étaient dans des situations dramatiques. Et donc, ça a empêché complètement, même les personnes des services d'études, des syndicats étaient sur le front. Et donc, justement, est-ce qu'on n'a pas géré cette crise chacun dans un silo, en fait, et sans justement qu'il y ait ces interactions, et notamment qu'il y ait cette implication à la fois des mouvements sociaux institutionnalisés ou moins institutionnalisés, mais surtout de la population, des citoyens et des citoyennes, et notamment Natalia Hirtz, elle évoque cette question-là aussi, mais d'autres articles évoquent cette question qu'on a vraiment mis sous cloche, aussi l'effervescence intellectuelle qui pouvait aider à penser ce monde d'après, en disant c'est pas le moment, d'abord l'urgence.
Tout à fait. Je pense que c'est un des trois, cette suspension de la démocratie dont tu parles, c'est un des trois points essentiels qui traversent le Grisea, avec l'incapacité un peu crasse de nos sociétés à penser la transition énergétique qui est révélée par le Covid, et puis la violence globalement des rapports de production capitaliste, puisqu'il faut dire le terme, et avec les travailleurs de première ligne, et le fait qu'on laisse mourir quelque part dans des maisons de repos ceux qui ne produisent pas de valeur aux yeux du capital, c'est-à-dire les vieux. Mais pour revenir à la question de la démocratie, c'est pas une nouveauté du tout. On est de plus en plus dans des exécutifs forts. Et donc, on a vu Macron en France gouverné par ordonnance. Ici en Belgique, on a de plus en plus de lois qui sont issues de projets de loi et non de propositions parlementaires. Donc il y avait déjà un contournement de la démocratie parlementaire, c'est très clair depuis de nombreuses années. Mais ici, on a vu apparaître, et je pense que Sophie Wilmès a dit une phrase qui a résonné chez nous très fort. Elle a dit un jour, lors d'une de ces énièmes réunions d'une task force ou autre, tout ce qui n'est pas autorisé n'est pas permis. Cette phrase, c'est la fin de la démocratie, en fait. C'est véritablement, puisque la base de la démocratie, c'est tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. C'est ça, c'est tout ce qui ne vous est pas interdit, vous avez la liberté de le pratiquer, de le faire. Elle a renversé ce concept. Et donc, elle a clairement suspendu la démocratie dans un moment où, selon nous, justement, il fallait faire de la place à l'intelligence collective, il fallait du débat. L'urgence n'interdit pas le débat. L'urgence n'interdit pas la démocratie, la délibération. Et donc c'était vraiment une première chose qui est choquante, en fait. Et ça continue. Donc on est constamment dans une période d'exception, un état d'exception depuis le mois de mars. Les démocraties européennes, les démocraties occidentales, hein, qui sont si promptes à donner la leçon. Et là, on retrouve la question du Sud et des échanges, enfin, d'une forme de néocolonialisme qu'on a vu également au travers de cette crise. Et puis deuxième point, c'est ce qu'on a appelé, nous, le gouvernement par la task force. Hein, c'est un gouvernement des experts, c'est cette technocratie qui existe également, hein, qui existait avant la pandémie, mais qui est véritablement révélée par celle-ci, qui est en parfaite contradiction avec les principes de la démocratie parlementaire. Alors, je ne vais pas faire ici l'apologie de la démocratie parlementaire, mais en tout cas, c'est normalement le système dans lequel on vit. Et c'est en plus des experts qui dépassent très souvent leur cadre de compétences. Hein, donc, je ne saurais pas parler de la question du virus, de sa reproduction ou d'autre chose. Et on a eu des biologistes qui ont fait de la sociologie, on a eu des sociologues qui ont fait de la physique ou de la chimie dans cette crise, et tout le monde a fait un peu de politique. On a senti aussi le pouvoir des lobbies, qui est extrêmement fort, hein. On le voit dans ce deuxième confinement, véritablement, on a confiné les relations sociales et déconfiné le secteur économique, ce qui est quand même caractéristique de ce rapport de production capitaliste. Hein. On continue à voir des gens aller au boulot alors qu'ils peuvent pas voir leur famille. Donc ici, cette suspension de la démocratie, c'est vraiment une mise en lumière claire. Et donc, quand je parlais de potentialité lourde de sens au début de mon intervention, c'est vraiment ça. Le Covid révèle cette mise en parenthèse de la démocratie. Mais le problème, c'est qu'on sait quand elle a commencé, mais on ne sait pas quand on en sortira.
Et justement, comme vous le soulignez, c'est quelque chose qui n'a pas débuté avec le Covid, et même ça fait déjà 5 ans qu'on est dans cette restriction des libertés et cette surveillance accrue. Donc dans cet article, notamment l'article de Cédric Le Terme, mais aussi celui de Natalia, justement, il y a cette utilisation du confinement, justement, pour maîtriser les populations, pour les renfermer. Et donc, Nathalie Hirst, elle parle de politique moyenâgeuse, en fait. C'est de dire tout ce qui compte, comme vous le soulignez, c'est la reproduction du capital et... en maintenant la population au travail, mais en lui interdisant tout le reste et tout rapport social. Et donc Cédric Le Terme, lui, pose la question plutôt de comment on peut retrouver une autonomie plutôt que l'oppression et la soumission des populations, et donc l'autonomie dans le sens de proposition aussi, de pouvoir se concerter, délibérer, faire des propositions quant au vivre ensemble. Voilà.
Non, mais je pense que c'est important. C'est ce qui est... Le foisonnement des cartes blanches, l'hyperactivité du monde associatif, du monde syndical également, même s'il a été, comme tu l'as dit, extrêmement submergé par la gestion du chômage, donc cette il doit faire face à sa part d'autorité publique dans ce cadre-là. Mais cette hyperactivité, c'est une envie aussi de pouvoir débattre du monde d'après, de faire vivre des expériences différentes. Et quelque part, le confinement, c'est une manière de ne pas faire aussi, de ne pas permettre à ce monde d'après d'apparaître, d'être. Alors, c'est toujours difficile parce que quand on... Il y a eu un débat qui a directement été très, très clouté, très encadré dans le fait de dire que si on est contre le confinement, on est pour la mort des gens, presque. Hein. Or, quand Natalia dit que le confinement, c'est moyenâgeux, oui, le confinement, c'est la manière de masquer le sous-financement de nos systèmes de soins, de santé depuis... plusieurs décennies. C'est la manière de faire continuer. C'est comme le fait qu'on n'ait pas de statistiques en Belgique sur les contaminations au travail, quoi. Donc, on a tous ces exemples qui montrent véritablement que, d'une part, qui montrent que le capital n'est rien sans le travail. Et ça, je pense que c'est une leçon dont on doit vraiment sortir de ce confinement. C'est que quand ils ont confiné, y compris les activités économiques, ça fonctionnait plus, l'accumulation est bridée. Mais voilà, c'est une solution moyenâgeuse parce que le capitalisme nous amène à avoir des comportements, mais aussi des systèmes de soins, etc., qui vont... Certains chercheurs parlent de tiers-mondisation de nos États. Voilà, le Covid révèle cette destruction, je pense.
Et justement, un des grands espoirs, de collectifs comme la Santé en Lutte ou bien de collectifs féministes, c'est justement que cette crise allait permettre de remettre au centre de la réflexion et du système de pensée l'importance justement de toutes ces tâches, aussi du soin aux autres, du care, que ce soit dans le cadre des soins de santé officiels ou justement tout ce travail de reproduction qui est fait de façon largement invisible, parce que à la maison, de façon isolée, chacun chez soi. Et donc justement, ça, c'est quelque chose, on voit pas réellement venir le changement. Et donc,
le capital est en train, je parle du capital maintenant, voilà, les grands investisseurs, les grandes entreprises, notre gouvernement actuel, nos gouvernements actuels, en Belgique, on doit dire nos gouvernements actuels, reconnaissent le soin quand il est fait par des personnes salariées. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ils le reconnaissent par des primes, en plus. Donc, on peut pas vraiment, pour le moment, c'est ça qu'on voit, c'est une prime de fin d'année et un chèque sport pour les infirmières. Mais par contre, ils reconnaissent et ils prennent garde de ne pas reconnaître, tout ce qui est fait en maison de repos. Et on en vient même à appeler aux bénévoles. Donc, c'est véritablement le travail gratuit, qui est cher au capital et qui est mis en avant. Donc on voit qu'on n'a pas avancé sur ce plan-là, à mon sens. C'est un peu la même idée de... Parce qu'une des choses, outre la question démocratique, la question de la violence du rapport de production capitaliste, il y a cette question de notre incapacité à prendre en compte l'enjeu environnemental. Je ne parle pas seulement de l'enjeu climatique, mais l'enjeu environnemental. Et on vient dans... Voilà, on est face à une pandémie qui, clairement, et c'est prouvé aujourd'hui, est liée à l'exploitation industrielle des ressources naturelles, énergétiques, minières. Voilà, c'est ce qu'on appelle une maladie infectieuse, zoonose. Hein. C'est ce que Romain explique dans son article. Paradoxalement, qu'est-ce qui se trouve dans... Donc, c'est lié à l'extractivisme. Donc, le fait que l'homme, l'activité humaine, prend le pas sur la nature et est de plus en plus en contact avec elle. Et qu'est-ce qu'on propose comme sortie de crise, paradoxalement? C'est d'une part le capitalisme vert, donc la voiture électrique, les panneaux solaires, qui vont avoir un impact, une augmentation, qui vont faire augmenter les activités extractivistes, parce qu'il faut des minerais. Et deuxièmement, des plans de relance fondés sur la croissance verte, mais la croissance quand même. Et donc, on est là véritablement sur un système qui se marche un peu sur la tête, dans un cercle vicieux où on reproduit exactement ce qu'ils ont... C'est là que je dis de la catastrophe naît la catastrophe. On reproduit ça, on est incapable, on a une incapacité crasse de nos sociétés à penser la sobriété. Et ça, c'est peut-être l'origine du problème qu'on connaît. Et c'est la même chose, on a une incapacité crasse à reconnaître le travail hors salariat, hors des rapports de production capitaliste. Et ça, c'est véritablement ce que le Covid met en lumière. Et pourtant, on a du mal, et les mouvements sociaux ont du mal, je pense, à se saisir de ça, à l'expliquer, à en faire une pédagogie, une éducation, et des propositions, parce que c'est autour de ces questions-là qu'on doit construire le monde d'après.
Mais justement, effectivement, on peut revenir un peu en arrière. Ce que la pandémie a mis aussi en évidence, et c'est ce que les articles de Romain Gelin et de Frédéric Thomas mettent en avant, c'est justement cette interdépendance dont on ne peut pas faire abstraction entre l'humain et la nature d'une part, entre le nord et le sud d'autre part, et le fait que tout est lié. Et donc effectivement, la solution qu'on voit que le gouvernement, là, dans son programme, veut que je ne sais pas combien de pourcentage de voitures soient des voitures électriques d'ici 10 ans, je pense, c'est une aberration. On se dit, mais où il est le... Enfin, comment... Et est-ce que justement, comment ça a pu être analysé ou aussi vécu et expliqué justement le fait qu'on continue à être dans le même train, quoi, et qu'on n'est même pas en train de tirer le frein, qu'on
Mais oui, mais on est en train de vouloir, d'avoir une politique volontariste pour mettre des voitures de société, parce que c'est ça dont il s'agit. En plus, ce n'est pas, hein, c'est des voitures de société électriques sur les routes. En même temps, ce matin, on apprend donc qu'on va fermer les centrales nucléaires productrices d'électricité. Alors, on peut être pour ou contre le nucléaire, c'est pas le débat ici, mais plus de voitures électriques, moins de production d'électricité en Belgique. À un moment, il va quand même y avoir un petit souci. Mais c'est aussi une façon, de ne pas vouloir voir, et même dans certains mouvements sociaux, le fait que on ne sort pas du capitalisme sans à un moment donné, enfin en tout cas si on veut que le monde d'après soit hors de ce rapport de production, on n'en sort pas, on n'en sortira pas avec ce... en préservant la consommation de masse, ce soi-disant confort, il faut, on veut rêver de ça, on veut trouver des solutions. J'assiste beaucoup de débats, etc., dans les organisations syndicales, dans les ONG, où on va réussir à ménager notre confort à l'occidental et en même temps proposer ce qui serait une sortie du capitalisme. Mais c'est impossible. C'est impossible. Il y a une phrase de Frédéric Lordon qui, moi, je trouve assez chouette, c'est le capitalisme ne rendra pas les clés. Il faudra les lui prendre. Et pour lui prendre, il faudra accepter de transformer profondément nos... Je pense que ça ne se fait pas sans casser des œufs, quoi. Et donc, c'est cette question-là, cette peur, en fait, on a peur de construire un projet de transformation sociale radicale parce qu'il va, en effet, dans nos sociétés occidentales, il va nous coûter un peu. Et ça, il faut être lucide aussi sur cette question-là, et je crois qu'il faut l'expliquer aux gens que vivre avec 3 voitures par ménage, c'est pas possible, voilà, dans un projet de transformation sociale, parce que outre l'exploitation, il y a l'aliénation, cette aliénation qui nous maintient constamment et qui nous fait revenir vers le système qu'on critique, et à juste titre.
Oui, mais justement, ça me fait penser au fait Isabelle Stengers, elle parlait des petites mains du capitalisme, et donc on est toutes un peu les petites mains du capitalisme, et donc ça rend compliqué justement, et dans toutes les discussions, dans les mouvements de gauche progressistes sur comment aller vers une transition, comment faire lutter contre les enjeux, la destruction environnementale et tout ça, on oppose toujours le petit colibri qui fait dans son coin et changer de système. Et justement, c'est à la jonction de ces deux-là qu'il faut agir. Et donc, j'ai l'impression qu'effectivement, cette remise en question de notre consommation, on a bien vu qui est sorti super gagnant de ce confinement, c'est cette plateforme de commerce en ligne. Et donc, on ferme les magasins, mais la poste est débordée, les sociétés de transport sont débordées. Et donc, il n'y a pas du tout remise en lien, effectivement. Et donc, comme vous le disiez, il faut casser des œufs. Il y aura effectivement des gens qui vont... Enfin, une partie qui va devoir en payer les frais. Et donc, comment sortir de ça? Enfin, j'imagine qu'on n'a pas la réponse.
En toute humilité, c'est une question compliquée.
Ce serait trop facile, mais...
Non, maintenant, il faut réfléchir, je pense. Y a un point, quand je t'entends, la responsabilité individuelle ne sert à rien, est un échec complet. Donc, les petites choses, fait chacun dans son coin. Ça fait 40 ou 50 ans qu'on nous sert ce discours, que le capitalisme nous sert ce discours parce que ça l'arrange. Évidemment, je ne dis pas qu'il ne faut pas trier ses déchets, mais ce n'est pas ça un projet de transformation sociale. Et donc, il faut être très clair là-dessus. La transformation sociale, elle est portée par des mouvements sociaux. Et ça, dans l'histoire du capitalisme, c'est un fait, c'est une réalité. Et on ne va pas changer ça aujourd'hui. Le mouvement ouvrier a participé à construire la sécurité sociale en Belgique. C'est un modèle de transformation sociale. Le mouvement environnementaliste, le mouvement féministe, le mouvement ouvrier aujourd'hui, le mouvement des sans-papiers et d'autres participeront. C'est de eux que viendra la transformation sociale. C'est évident, c'est pas des initiatives, des petites initiatives individuelles. Maintenant, toute la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment, en Belgique et en Europe globalement, comment ces mouvements sociaux, d'une part, peuvent converger, puisque les problèmes, on est à l'intersection de multiples problèmes, donc comment est-ce qu'on peut converger? C'est ce qu'on essaye de faire, par exemple, d'en faire front, avec beaucoup de... C'est compliqué, hein, il faut bien se rendre compte de ça. Comment est-ce qu'ils peuvent converger? Et puis, deuxièmement, comment, à un moment donné, ils peuvent faire œuvre de radicalisme, pas dans le sens, comme on l'entend trop souvent aujourd'hui, mais c'est-à-dire d'aller à la racine des problèmes, de comprendre cette racine et de se battre contre la racine des problèmes et pas les problèmes en superficie et de manière superficielle. Et donc ça pose la question de... On est directement dans le cadre salarial, je pense, dans nos sociétés. C'est comment on remet en question... ce chantage à l'emploi qui est hyper fort aujourd'hui. Je travaille principalement sur Ryanair pour le moment. Je peux vous dire que ces travailleurs souffrent très fort de ce rapport salarial et en même temps d'un chantage à l'emploi qu'on leur fait sentir. Je sais que les organisations syndicales c'est difficile pour elles pour le moment parce qu'elles sont mises devant le fait accompli. C'est soit on continue comme avant, soit il y a des aides qui sont déversées dans les entreprises, soit il y aura des licenciements collectifs. Tant qu'on ne veut pas se poser véritablement cette question-là, je pense que la transformation sociale, dans le cadre capitaliste, ça restera un rêve.
Oui, effectivement, enfin, c'est pas le procédé syndical non plus, mais... en tout cas en Belgique et ces dernières années et décennies, ils ont contribué à faire en sorte que le système capitaliste soit le moins dommageable possible pour les travailleurs, mais tout en restant dans un système effectivement de salariés. Donc ça a fait aussi que c'est difficile pour le mouvement syndical de pouvoir appréhender réellement la situation des gens qui sont hors salariat et de tous les travailleurs qui sont hors salariat et hors structure salariée où il y a une représentation syndicale. Et donc ça pose la question, Frédéric Thomas dans son article, il dit aussi cette question du confinement dans les pays du Sud où 80% de la population travaille de manière informelle et donc sans réel patron, et encore moins de délégation syndicale pour l'aider. Tout ce discours qu'on peut avoir en Europe sur il faut faire respecter la convention une telle de l'OIT, c'est largement inaudible et incompréhensible à la limite pour les populations autres que je ne sais pas quel est le pourcentage aujourd'hui de la population salariée qui est dans une structure où il y a une délégation syndicale.
Grosso modo, pour 60-70% de la population mondiale, ce discours ne veut pas dire grand-chose, je pense. Et j'étais dans un débat samedi encore sur la question du salaire, avoir un salaire en Afrique, avoir une accès à la sécurité sociale, un salaire socialisé, tout ça, c'est des choses qui ne parlent pas à une large part de la population. Donc c'est un débat très occidentalocentré, d'abord, il faut le reconnaître. Ensuite, quand tu parlais des organisations syndicales, il ne s'agit pas de faire leur procès du tout, parce qu'en fait, elles ne sont pas faites pour ça. Il ne faut jamais oublier qu'à l'origine, les organisations syndicales sont nées du capitalisme. Elles sont nées du capitalisme pour combattre les excès de ce système, mais pas pour transformer ou changer ce mode de production, ce rapport de production, parce qu'elles existent au travers de celui-là. Et c'est ce qu'on sent très fort aujourd'hui. Donc c'est loin de moi l'idée de faire une critique virulente. Il faut juste poser le constat que les organisations syndicales sont des organisations hyper importantes, parce que c'est les derniers outils depuis depuis que les partis ouvriers en grande majorité se sont convertis au néolibéralisme. Les organisations syndicales en Europe restent, selon moi, la dernière organisation de masse politiquement progressiste. Et je mets un peu tout le monde dans... Voilà, je pense que ça, c'est un peu vrai pour tous les syndicats européens, la majorité en tout cas. Et donc, c'est des organisations de masse, et donc pour mobiliser, pour transformer la société, on a besoin de ces organisations de politique de masse. Je sais qu'elles sont souvent critiquées, je sais que beaucoup préfèrent militer à côté, hein, dans des plus petits collectifs, plus horizontaux. Mais bon, il faut aussi reconnaître que dans l'histoire du capitalisme, quand il y a eu des avancées sociales, du progrès social, c'est souvent les organisations syndicales qui l'ont poussé. Par contre, espérer que ce soit elles qui portent un projet de société de destruction ou de transformation du capitalisme, ça c'est une utopie, je pense, parce qu'elles ne sont pas faites pour ça. Et elles sont là pour défendre les travailleurs dans le cadre du rapport salarial. Ce qu'on peut critiquer, c'est que de plus en plus, elles ont, ces 30 dernières années, en Belgique en tout cas, mais bon, c'est une tendance au niveau européen et même anglo-saxon, au niveau du monde anglo-saxon également, c'est qu'elles sont un peu passées de la défense du travailleur à la défense de l'emploi. C'est deux choses différentes. Et là, je pense qu'il y a un enjeu dans les organisations syndicales à reprendre en main cette défense du travail et de moins s'inquiéter, je dirais, pour la quantité d'emplois disponibles. Je pense que ce n'est pas leur job. Voilà.
Mais justement, en écoutant, je me dis forcément, le capitalisme n'est pas... je ne sais pas dans quel sens le formuler, mais le progrès social n'est pas incompatible avec le maintien d'un système capitaliste néolibéral. Et donc, on peut... l'obstacle et le mur vers lequel on fonce maintenant, c'est que ça se fait au détriment du reste du monde, en fait, et que qu'il y a clairement quelques gagnants et beaucoup de perdants. Et donc la question environnementale, la question du rapport au monde, à la terre sur laquelle on vit, elle se pose, et c'est ça qui n'a pas été pensé, j'imagine, par les mouvements sociaux aussi jusque maintenant. C'est que tout ce qui avait été possible, tous les progrès sociaux qui avaient été possibles, largement ils se sont faits sur le dos et grâce à une pensée coloniale et puis néocoloniale qui se maintient. Et cette crise a montré qu'on était loin d'être sorti de cette pensée-là.
Il y a une chose qu'on ne peut pas retirer au capitalisme, c'est qu'être il est un mode de production qui produit énormément de richesses monétaires. C'est évident, et il n'y a jamais eu dans l'histoire humaine, de l'humanité. Par contre... ce qu'il ne saura jamais faire, c'est être synonyme de progrès social pour tous. parce qu'il distribue et il ne redistribue pas les richesses. C'est un mode de production qui concentre les richesses. Et donc, c'est évident, parfois on fait l'apologie dans nos pays occidentaux des 30 glorieuses, hein, les fameuses années de 1945 à 1975, où on a connu une croissance économique importante et un développement de la sécurité sociale. Mais il faut avoir beaucoup d'humilité par rapport à ça, parce que cette sécurité sociale, nous l'avons construite à la force des mouvements sociaux européens, mais aussi à partir d'une richesse qui ne nous appartient pas. C'est des transferts de richesses sud-nord qui ont permis cette croissance économique, cette création de valeur importante, enfin cette importation de valeur importante qui a permis la naissance de la sécurité sociale. Donc ça, c'est une première chose. Et donc, le capitalisme va continuellement, et le capitalisme néolibéral est une période du capitalisme qui est encore plus violente dans ce sens-là. C'est un système qui n'a de cesse d'accentuer les inégalités économiques et les inégalités sociales. Et ça, on peut vouloir le civiliser, hein. On peut lutter à l'intérieur pour essayer d'avoir des meilleures conditions d'emploi. On n'empêchera pas que certaines classes sociales, certains groupes sociaux soient exclus de la richesse créée. Et la question des sans-papiers ici est claire, vraiment, c'est un groupe qui montre la question des femmes seules aujourd'hui et de la non-reconnaissance du travail reproductif, etc. Tout ça montre que le capitalisme exclut, c'est un système qui exclut. Et donc, oui, il crée de la richesse, donc oui, on peut se dire on va se battre pour en avoir une partie, mais penser que le capitalisme un jour sera synonyme de progrès social pour tous, ça c'est une utopie complète et il faut vraiment oublier ce projet.
Et je vois que le temps file et qu'on arrive bientôt à la fin. Justement, là, on est, comme je le disais en début d'émission, on est en plein deuxième confinement. Cette deuxième vague dont tout le monde parlait, enfin tout le monde, non, certains parlaient, est bel et bien arrivée. Où en sont justement ces mouvements sociaux que vous mettez en avant, Anne Dufresne et toi, dans votre conclusion sur les mouvements sociaux, donc la santé en lutte, le mouvement des sans-papiers, est-ce que ça a malgré tout porté ses fruits? Parce que ici en Belgique, on a été confronté au fait que non seulement on était confinés, mais aussi on était en négociation gouvernementale et on a enfin accouché, entre guillemets, juste avant le deuxième reconfinement de ce gouvernement. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été entendues? Est-ce que les mouvements sociaux ont pu justement faire passer certaines choses?
Mais je pense que malheureusement, les sans-papiers n'ont pas été entendus du tout. Donc le nouveau secrétaire d'État à l'immigration, je pense, c'est avec un discours plus doux, mais c'est assis sur le siège et a mis les pantoufles de l'ancien. Donc on est plutôt dans on peut espérer des règles plus claires. C'est surtout ça qu'il vend, mais des règles qui sont toujours très dures. Donc voilà. Pour ce qui est du personnel des soins de santé, ben il y a quand même eu. Il faut le voir aussi, il y a eu un milliard de... Pour le moment, c'est principalement des promesses de dons, mais il y a eu un milliard promis par le gouvernement, 400 millions et puis 600 millions pour revaloriser le secteur. Donc c'est... attention, secteur principalement hospitalier, donc c'est pas l'ensemble des soins de santé qui est concerné par là. Ça, c'est des... Voilà, il faut le voir, il faut... C'est grâce à la mobilisation, je pense, de ces mouvements, enfin de la santé en lutte, entre autres, pas seulement, mais aussi des organisations syndicales, parce qu'il y a eu le mardi des blouses blanches avant, il y a eu plein de choses qui se sont passées ces dernières années, déjà avant le confinement, par rapport à ce secteur. Néanmoins, ce dont on assiste aussi, c'est la reproduction de problèmes. Je pense qu'actuellement, avec ce deuxième confinement, on a quand même un certain essoufflement de ce débat, Les forces progressistes sont un peu essoufflées. Et les organisations qui ont le plus de moyens, les organisations syndicales, mutualistes, les grandes ONG, etc., je pense, sont certaines, sont un peu de nouveau dans la contradiction forte, quoi. Il faut gérer l'urgence. Et donc, on gère l'urgence, on essaie de négocier des conventions collectives pour que les gains des luttes sociales se soient effectives. Mais en même temps, quand on négocie, et il est dur de mobiliser en même temps. Pour le moment, c'est une période compliquée, je trouve, par rapport aux mouvements sociaux, parce qu'on a quand même autant le premier confinement a été une effervescence d'idées, voilà, même si ça allait dans tous les sens. Ici, on a quand même un silence assez fort par rapport à la critique de ce nouveau gouvernement. On n'entend rien. Alors que c'est un projet qui reste néolibéral et dans la lignée de celui d'avant. On a énormément de socialisation des pertes, donc les entreprises qui perdent de l'argent, qu'elles soient petites ou grandes, peu importe, frappent à la porte de la sécurité sociale et reçoivent par le biais du chômage économique des sommes d'argent folles. C'est-à-dire faire porter sur l'ensemble des pertes du privé, c'est ce qu'on a déjà fait en 2008. Là, on a un système qui tourne, sous le couvert de l'urgence, on peut le faire, quoi. Et donc, tout ça n'est pas questionné, ou très peu. Il l'est, mais très peu. Et donc, pour le moment, on en est là. Et la grève générale que Natalia pense dans son article, et je pensais loin pour le moment, mais il faut pas désarmer, et je crois qu'il y a une vraie on est quand même à Bruxelles, en Wallonie, en Belgique en général, avec des mouvements sociaux qui vivent, et donc c'est important de continuer à les penser et à essayer de les faire vivre encore plus fort.
J'aurais encore plein de questions, mais peut-être que c'est le mot de la fin. La petite page de pub, peut-être sur le Grésia Echo, sur comment on peut se le procurer.
Donc, vous envoyez un mail à info@grésia.be, Grésia, G-R-E-S-E-A, et vous le demandez, on vous l'envoie. Autrement, il est dans une dizaine de librairies, principalement à Bruxelles. On essaye d'étendre ça. C'est une revue qui est monothématique. La prochaine portera sur Ryanair. Donc, on fait tout un travail d'entretien avec des travailleurs, etc., pour essayer de comprendre justement un régime de mobilisation néolibérale. Pourquoi est-ce qu'on va travailler même si on nous offre des conditions de merde? C'est un peu ça la question. Et donc, on a investi beaucoup dans cette revue parce qu'on croit à l'écrit. Et on croit à l'écrit non numérique aussi, on croit au papier, et on a envie d'y croire parce qu'on pense que c'est lire dans des bonnes conditions, c'est quand même mieux. Donc c'est important d'essayer de nous soutenir aussi. Merci
Bruno Bourin d'être venu.